France Inter.
Bien, je suis un peu perturbée car normalement, mais bon, ce sont les aléas du direct, il y a des passages d'antenne à ce moment-là avec Camille Crenier. Mais ce n'est pas grave, en tout cas ça tombait parfaitement puisque Thomas Pesquet dans Les Petits Bateaux et moi, avec qui suis-je en studio? Avec l'astrobiologiste et directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis. Donc je vous dis tout de suite ce que c'est que l'Institut SETI. C'est l'organisation scientifique à but non lucratif qui cherche à comprendre et expliquer l'origine de la vie dans l'univers et son évolution. Je suis donc avec Nathalie Cabran qui dirige des projets de recherche pour la NASA depuis 1998. L'exobiologiste et planétologue a déjà publié Voyage aux frontières de la vie et à l'aube de nouveaux horizons. Elle vient de faire paraître au seuil l'ouvrage L'énigme cosmique de la vie. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du terme exobiologie, aussi appelée astrobiologie, il s'agit justement de la science pluridisciplinaire qui étudie les facteurs et processus pouvant mener à l'apparition de la vie et à son évolution. Vous savez tout, chers auditeurs, prenez une écharpe. Nous allons sonder les zones galactiques habitables. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Nathalie Cabrol.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
À quoi ai-je le plus pensé aujourd'hui? J'en ai profité pour regarder, j'avais un petit peu de tranquillité, et j'ai regardé des photos et des images de l'espace. J'étais en train de préparer une présentation, une conférence, et j'en ai profité pour regarder les belles images de James Webb qui continue d'arriver, et puis les autres missions du système solaire.
Est-ce que ça vous arrive de regarder ces images parfois sans raison, juste pour voir de la beauté?
Oh, absolument. Absolument. C'est pas seulement de la beauté, mais c'est aussi un appel à une réflexion qui est profonde et dont on a besoin de savoir que où que l'on soit sur cette planète, on vient, on est une poussière d'étoiles, comme aurait dit Hubert, qui nous manque bien. Et spécialement en préparant cette conférence, j'ai bien pensé à lui, à notre dernière conversation au mois de janvier.
Nathalie Cabrol, est-ce que le fait de voir les choses d'un point de vue macrocosmique est un appui pour appréhender le réel dans lequel la plupart des êtres humains se noient, trop concentrés que nous sommes sur les détails ?
Les détails, c'est important aussi, mais la beauté de l'espace, c'est de nous donner ce recul. Et le premier choc que l'humanité a eu, en fait, cette première compréhension de l'unité de la vie sur Terre, ça a été cette vue de l'espace de notre planète, ce sentiment, cette perspective que l'on a depuis l'espace, de voir que finalement, bien depuis l'espace, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, on est tous bleus depuis l'espace. Et surtout qu'on vit dans une petite bulle fragile et qu'on en fait partie. On n'est pas des observateurs extérieurs. On est véritablement fusionnel avec notre planète. On vient des mêmes éléments fondamentaux qu'elle. On est formé des mêmes choses et on coévolue avec elle. Ce qui veut dire que bien, l'environnement est ce qui a amené à l'émergence de la vie sur Terre. Et puis la vie, elle transforme l'environnement, comme on le sait, malheureusement en ce moment.
Vous dirigez le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis. SETI étant l'acronyme que je vais traduire directement en français, recherche d'intelligence extraterrestre. Donc pas les êtres à antenne qu'on représente dans les films, mais au-delà de la Terre. L'une des grandes questions qui demeure est sommes-nous seuls dans l'univers? Et aujourd'hui, lundi 6 novembre 2023, a-t-on des preuves tangibles qui contrediraient notre solitude humaine?
Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Et c'est aussi quelque chose qui est important, je dirais, quand on cherche la vie à l'extérieur de notre planète. Bien sûr, trouver la vie ailleurs et avoir la preuve qu'il y a d'autres civilisations extraterrestres, ce serait absolument formidable pour des tas de raisons. Il y a des raisons philosophiques, il y a des tas de raisons pour ça. La seule qui serait pas valable, c'est d'attendre qu'ils viennent nous sortir du pétrin dans lequel nous nous sommes mis. On a besoin de s'en sortir tout seul. Mais je crois que fondamentalement, le premier bénéfice de cette recherche, c'est de se poser des questions. Et ce sont des questions posées par un cerveau humain. Et donc, en se posant ces questions, on s'interroge sur notre propre nature, sur qui nous sommes. Et donc, ça nous permet de mieux nous connaître.
Ça, vous seriez triste si on découvrait que nous étions seuls ?
C'est toujours l'hypothèse négative est toujours la plus difficile à démontrer en science. Comment prouver qu'on n'est pas seul dans l'univers. C'est une grande, un grand espace, hein, littéralement. Et même si on prend l'exemple de la recherche de la vie sur une planète comme sur Mars, on vient de commencer tout simplement. Hein. Persévérance, c'est la première mission qui cherche la vie sur Mars. Mais quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on décide qu'on n'a pas trouvé la vie? Et puis c'est encore rendu plus difficile, c'est parce qu'on n'a pas une définition consensus de ce que c'est la vie, même pour la vie sur Terre. On a quelque chose comme 123 définitions, en fait, qui ne sont pas des définitions, qui sont des descriptions. Et donc dire qu'on ne va pas trouver la vie, je pense que c'est une quête qui est partie pour longtemps. On a aujourd'hui beaucoup plus de moyens de la chercher. On a des meilleures questions, je crois. On a des meilleurs instruments, c'est évident. Mais ce que j'attends personnellement, je crois que on va être surpris. Je crois que c'est quelque chose, pour le moment, comme je disais, on pense toujours à ces questions avec nos cerveaux d'humains. Et souvent, ce que je dis à mes collègues, spécialement pour la recherche de SETI, je dis, mais notre cerveau, il est le produit de 4,5 milliards d'évolution, de coévolution sur cette planète. Et donc, il est complètement formé en fonction de cette coévolution avec la Terre. Pour un extraterrestre, il va avoir sa propre coévolution. Son cerveau, il va être formé, les questions qu'ils vont articuler seront en fonction du monde dans lequel ils évoluent. Chaque monde est une expérience unique. Donc, savoir s'ils se posent les questions de la même manière, s'ils sont intéressés de savoir s'il y a quelqu'un, j'en sais rien, mais je m'attends certainement à être surprise.
Et comme le disait Carl Sagan, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Il y a aussi autre chose que vous citez, Nathalie Cabrol, c'est qu'avec 300 millions d'exoplanètes dans la zone habitable de notre galaxie, penser que nous sommes seuls est une absurdité statistique.
Alors oui, et cette phrase elle a été reprise et souvent mal comprise en fait. D'abord c'est 300 millions dans notre galaxie, mais je dirais probablement plus parce qu'à l'heure actuelle, on a évidemment un biais statistique qui est la résolution des instruments. Ça veut dire qu'on trouve beaucoup de grosses planètes. On commence à trouver un petit peu plus de planètes de la taille de la Terre. Ça ne veut pas dire que seules les planètes de la taille de la Terre ou des super-terres sont habitables, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les systèmes qu'on connaît, ce sont ceux qui sont comparables à la Terre. Et cela, statistiquement, il nous manque. Et l'histoire de l'absurdité statistique, ce n'est pas le nombre des planètes tellement. Il pourrait y avoir une infinité de planètes sans qu'il y ait la vie ailleurs. Mais par contre, ce que ce nombre nous donne, c'est la quantité de probabilités pour des biochimies différentes et des systèmes qui soient différents des nôtres et qui marchent quand même. Donc c'est ça ce que ça veut dire. C'est pas simplement parce qu'il y a beaucoup de planètes qu'il y a beaucoup de chances d'y avoir de la vie. C'est plus compliqué que ça.
Et puis il y a les microbes et plein d'organismes.
Oui, alors ça fait partie aussi des lois naturelles où la nature fait beaucoup plus de petites choses que de grosses choses et plus de choses simples que de choses complexes. Si on applique cette loi de la nature à l'ensemble de l'univers, ce qui paraît probable parce qu'il y a beaucoup plus de petites planètes que de grosses planètes, etc. Ma plaisanterie habituelle, c'est de dire que l'univers est probablement peuplé de cyanobactéries, c'est des petites algues bleues parce que c'est les choses les plus faciles et les plus rapides à faire apparemment si on se fie à ce qui s'est passé sur Terre. Et la vie sur Terre, elle est faite avec des matériaux qui sont, ou les briques de la vie plus exactement, avec des atomes et des molécules qui sont parmi les plus communes de l'univers. Et ce n'est pas un hasard. Si la vie a utilisé ces matériaux, c'est parce qu'ils étaient abondants.
L'enquête reste ouverte.
Tes yeux comme une envie de dire adieu, d'emporter tes valises vers d'autres mondes, vers d'autres cieux. Je crois pas que tu réalises à quel point la vie est un jeu, où y'a rien à gagner si tu te fais pas quelques bleus. J'ai cru voir dans tes yeux comme une envie de faire une
chérie, viens te faire un bisou si tu l'oses. Mes chansons sont moins tristes, plus t'es entrée dans ma vie. Même si je prends des risques, je le fais pour te faire sourire. Je sais me taire quand il le faut, poser mes mains sur un piano. Je sais te faire danser le soir, entre tes cris et tes cauchemars. Je sais chanter parfois très faux, écrire des comptines aux oiseaux. Mais je ne sais plus te faire voir que l'avenir brûle les idées noires. Ouais, c'est trop tard, je sais des os sous les pavés, je vois des sanglots, je perds mes rimes dans un lexo. Souviens-toi quand on riait hier, entre l'angoisse et les éclairs, je te récitais des prières. J'ai cru voir dans tes yeux comme une envie de dire adieu, d'emporter tes valises vers d'autres mondes, vers d'autres cieux. Je crois pas que tu réalises à quel point la vie est un jeu, où y'a rien à gagner si tu te fais pas quelques bleus. J'ai cru voir dans tes yeux comme une envie de faire une pause, à quatre pattes sur le lit, viens me faire un bisou si tu l'oses. Mes chansons sont moins tristes depuis que t'es entrée dans ma vie. Même si je prends des risques, je le fais pour te faire sourire.
Yoa chante l'envoûtant morceau encore plus triste.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Face à moi, l'astrobiologiste et directrice du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI, Nathalie Cabrol. Et à l'âge de 6 ans, voici ce qu'elle a vu.
On aperçoit une fraction du sol lunaire, je pense que c'est cela. Il y a une zone très claire qui barre une zone d'ombre et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle.
L'image a changé maintenant. Elle semble avoir été inversée, ça c'est curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Et effectivement, Armstrong suit les conseils que lui a donné encore récemment le Dr Berry et descend extrêmement lentement avec beaucoup de précaution. Il faut un temps infini, semble-t-il, à ce pied pour atteindre le barreau suivant. C'est fait.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong fait ses premiers pas sur la Lune. Vous avez 6 ans, Nathalie Cabrol, et vous voulez faire comme lui.
Oui, oui. C'était quelque chose, j'ai jamais rien voulu faire d'autre, pas astronaute, mais quelque chose qui était relié à l'espace, certainement. Et quand je l'ai vu, oui, j'ai pointé du doigt, j'ai dit c'est ce que je veux faire, parce que ça donnait corps à une passion qui était jusque-là... mon regard de petite fille vers les étoiles et des tas de questions que j'avais déjà.
Et pourtant, on a essayé de vous en dissuader puisque vous étiez une très bonne élève, sauf en maths et en physique. Et plusieurs professeurs vous ont vraiment découragé de ce rêve. Et je pense même à une conseillère d'orientation qui est allée jusqu'à vous dire que vous seriez une bonne mère de famille ou une assistante sociale.
Une conseillère d'orientation, c'était en fait un prof d'histoire géo.
Ah oui, bah écoutez, moi j'ai lu une conseillère d'orientation.
Oui,
je ne suis pas fautive, c'est le journaliste.
Mais c'est... Oui, et à l'époque, c'était encore la manière de penser des gens.
Ça vous a plongé dans un vrai désespoir.
À cette époque-là, oui, parce que quand on est adolescent, j'étais déjà passionnée par ce que je voulais faire. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Vous avez des jeunes gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire pendant très longtemps et qui trouvent leur voie et qui sont absolument heureux et passionnés dans leur vie d'adulte. Il y a ceux qui vont et qui viennent et qui papillonnent et essayent et qui sont heureux quand même. Et puis, il y a ceux qui savent depuis le début ce qu'ils veulent faire. Et puis, ça marche ou ça ne marche pas. La chose qui m'a sauvée, c'est que mon rêve était plus fort que tous les soi-disant interdits ou tout ce que la société pouvait mettre comme barrage. J'ai décidé de faire mon propre chemin. Et depuis, ce que je dis toujours aux jeunes gens qui me parlent, j'ai dit, ne laissez jamais personne décider pour vous ce que vous voulez faire, c'est votre vie. Vous vous levez tous les matins, c'est à vous de créer votre vie. Et si ça n'existe pas, eh ben, inventez-le.
C'est très encourageant. Nous le prenons. J'espère aussi chez vous, auditeurs, que vous le prenez. Dans votre ouvrage, Nathalie Cabrol, L'énigme cosmique de la vie, dans l'introduction, vous parlez de possiblement trouver d'autres civilisations avec lesquelles partager nos émerveillements. Et c'est un mot salutaire à une époque qui en manque cruellement. Pour vous, pas besoin de science-fiction, que vous n'aimez pas tellement d'ailleurs. Vous dites, il y a de quoi rêver tous les jours.
Oui, c'est vrai. Je fais comme tout le monde, j'ai des livres de science-fiction, des choses qui m'intéressent, mais je ne suis pas passionnée du tout par la science-fiction, et pour une bonne raison, c'est que j'ai devant les yeux tous les jours une source d'émerveillement et une source de rêve, et pas seulement de rêve, mais c'est écrire le futur dans la réalité et pas seulement dans le domaine onirique. Et ça, c'est formidable. C'est envisager l'avenir et le manifester. Et ça, c'est quelque chose qui est un émerveillement renouvelé chaque jour de ma vie. C'est de me lever le matin en disant « Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la prochaine étape? Où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce que ça nous emmène? Comment je peux résoudre cette question? Quels sont les modes d'exploration que je peux utiliser pour apporter des réponses ?»
Bien que vous n'aimiez pas la science-fiction, pour une raison que vous expliquez très bien, l'espace a été énormément représenté dans des films de science-fiction. Lequel, selon vous, est le plus proche de la réalité ?
Oh, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si j'aime tellement les films de science-fiction pour la réalité, parce qu'on aime regarder la science-fiction. Ce qui est formidable dans la science-fiction, par exemple, c'est qu'on peut se rendre d'une galaxie à l'autre dans l'espace d'une séance de publicité à la télévision. Ça, on n'est pas encore prêt de le faire dans la réalité. Et puis, dans les deux heures du film, ça prendrait un petit peu plus de temps quand même. Mais
visuellement, l'espace, ça ressemblerait plus à...
Visuellement, l'espace, il y a beaucoup... Bon, si on va à la vitesse de nos vaisseaux spatiaux, imaginez qu'il faudra 300 000 ans à Voyager pour sortir pour arriver vers une autre étoile. Bon, on a des vaisseaux qui se déplacent très très vite, mais il faut 4 années-lumière pour aller à l'étoile la plus proche. Il y a beaucoup de vide interstellaire entre les deux. Il y a aussi le fait qu'on est... très gâté avec les images de l'espace que l'on voit. Et ce que font les scientifiques, les gens me disent toujours « Oui, mais tout ça, c'est arrangé, on ne voit pas les choses, c'est triché, etc. » Non, ce n'est pas triché. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les belles images que l'on voit avec beaucoup de couleurs, c'est parce qu'on utilise des filtres. Mais ces filtres, ils ont une nécessité, ils ont un rôle scientifique à jouer. Ils nous parlent de composition, ils nous parlent de texture, etc. Mais dans les faits, si on se promenait dans l'espace, il y aurait beaucoup moins de couleurs que ce qu'on voit sur les images de Webb. Donc, c'est une vision un petit peu différente. Mais les films de science-fiction, c'est la partie du rêve, de la chose qu'on n'a pas encore réalisée. Mais il y a aussi une prophétie qui se réalise elle-même. C'est que les films de science-fiction ou les livres de science-fiction, ça fait rêver les gens. Et quand ça les fait rêver suffisamment, ils essayent de trouver des solutions pour essayer de manifester cette réalité dans le présent.
Nuit d'étoiles de Debussy par Alexandre Tarot et Sabine Devielle. Dans l'énigme cosmique de la vie, Nathalie Cabrol, vous nous emmenez dans un voyage interstellaire. On apprend que sans les étoiles, nous n'existerions pas, donc on doit sans doute véritablement être fait de poussière d'étoiles. Et puis on apprend plein de choses sur les étoiles. Et alors je vais vous interroger sans doute de façon un peu candide, mais pour faire la chose qui est justement dans son sens le plus noble, c'est-à-dire vulgariser. Donner accès au plus grand nombre à un savoir qui est peu répandu. L'étoile la plus ancienne connue à ce jour, c'est Mathusalem.
Mathusalem, oui. Et Erigel, il y en a une deuxième. Elles sont à peu près du même âge, pratiquement 13 milliards d'années. C'est très très peu de temps, c'est quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang.
Vous dites seulement régulièrement dans le livre, seulement, à peine, avec des...
Oui, parce que, évidemment, bon, d'abord pour commencer, j'ai une formation de géologue, donc quelques années, pour moi, ça veut rien dire. Ça m'arrange beaucoup plus, les années avancent d'ailleurs. Mais quand on dit seulement, c'est... tout arrive tellement vite. Il y a la théorie du Big Bang. Aujourd'hui, on est en train de discuter peut-être que l'univers est un petit peu plus ancien que ce qu'on ne pense, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas avec James Webb. On a des galaxies qui sont déjà bien formées alors qu'on ne les attendait pas. Et elles sont très proches du Big Bang. L'univers est né il y a seulement 200 millions d'années. On voit déjà des galaxies formées, des étoiles formées. Et ça, c'est très très important, parce que ces étoiles, elles n'ont rien à voir avec le Soleil qu'on connaît aujourd'hui comme notre étoile à nous. Ce sont des étoiles qui ont des centaines de milliers de fois la masse du Soleil, qui sont énormes, qui sont gigantesques, qui brûlent leur combustible de manière complètement effrénée et qui ne vivent que quelques dizaines de milliers d'années ou quelques millions d'années. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dans le cœur de cette étoile, vous avez une fusion qui se fait. L'hydrogène se transforme en hélium. elles explosent, ces composantes sont reparties dans l'univers. Et alors que vous avez des effets de gravité qui se produisent et des vents stellaires à cause d'explosions, d'autres explosions, vous avez des nuages qui se mettent en rotation, d'autres étoiles qui se forment, avec des éléments plus lourds qui sont formés à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à former du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, etc. Et ce que je viens de décrire, ce sont les briques de la vie. Et il y a environ 12 milliards et quelques millions d'années, on aperçoit dans une galaxie des molécules organiques. Alors les molécules organiques, ce n'est pas la vie. Ce sont les briques de la vie, c'est quand ces atomes commencent à former des molécules et que ces molécules commencent à grandir un petit peu. Eh bien, on les aperçoit il y a 12 milliards d'années. Le truc qui fait la vie, c'est déjà présent. C'est déjà présent il y a 12 milliards d'années. Donc, c'est un émerveillement perpétuel et c'est notre histoire qui est là. Et quand Hubert disait poussière d'étoiles ou Carl Sagan, parce que Stardust s'est repris aussi de Carl Sagan, c'est exactement ça. Si vous voulez penser aujourd'hui à ce que vous êtes, à ce que notre planète est, on existait déjà sous une autre forme qui est cette poussière d'étoiles il y a plus de 12 milliards d'années.
C'est saisissant et quand on s'intéresse aux étoiles, on est absolument ravis en lisant ce livre, Nathalie Cabrol. On découvre que chaque étoile a sa propre personnalité. Il y a des étoiles calmes, il y a des étoiles caractérielles, celles qui brûlent leur hydrogène comme des folles. On découvre, je ne sais pas si je vais bien prononcer, YI majuscule Scuti. YI Scuti, c'est la plus grosse étoile jamais découverte. Elle a un rayon de plus d'un milliard de kilomètres. Elle est 1700 fois plus grosse que notre Soleil. Et on découvre que comme chez les êtres vivants, être une grosse étoile, c'est mauvais pour la santé.
C'est très mauvais pour la santé. Votre durée de vie n'est pas tellement favorable. On brûle beaucoup d'énergie et immédiatement, ces étoiles explosent très très rapidement. Et plus elles sont grosses, et bien plus ça va créer des distorsions dans l'espace et le temps. Et ces grosses étoiles, elles commencent par former des trous noirs. Et les trous noirs, ça fait aussi partie des mystères de l'univers. On ne connaît pas tellement bien leur fonction, on sait comment ils sont. Ils naissent de la mort d'étoiles qui sont hypermassives. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe autour, à l'horizon de ces trous noirs? Qu'est-ce qui se passe une fois que la matière est avalée par les trous noirs? Il y a des chercheurs qui pensent que peut-être de l'autre côté, on a des fontaines blanches, et des fontaines blanches peut-être donnent naissance à d'autres univers. Il y a toute une théorie à l'heure actuelle qui est en train de se développer. Ce qu'on sait, c'est que chaque galaxie a des trous noirs en son centre et un petit peu partout d'ailleurs.
On découvre aussi que les étoiles, c'est assez contre-intuitif d'ailleurs, que les étoiles bleues sont plus chaudes que les jaunes, que les étoiles rouges sont les plus froides. Et puis surtout, on découvre quelque chose qui est bien supérieur à la science-fiction. On découvre les éjections coronales, les tempêtes solaires avec des jets de plasma vers la Terre, dont, et vous donnez cet exemple, en 1859, l'événement de Carrington. Les télescopes ont pris feu.
Non, les télégraphes, les instruments télégraphes.
Pardon, les télégraphes.
Les instruments télégraphes. Mais il n'y a pas besoin d'être en 1800. C'est l'événement le plus intense qu'on ait jamais eu. Il y en a eu d'autres.
Et comment vous le décririez visuellement aux auditeurs? Qu'est-ce qu'il faut imaginer?
Il faut imaginer des tas de petites étincelles qui se promènent sur les fils de télégraphe. Il y a du rayonnement cosmique qui passe au travers de notre atmosphère et de notre champ magnétique. C'est tellement puissant. Mais si vous aviez mis le nez à la fenêtre hier soir, et que vous ayez regardé en direction du nord, on a à l'heure actuelle une activité solaire qui est si forte qu'il y avait des aurores boréales jusqu'en France, en Suisse et en Italie hier soir. Il y a des gens qui ont photographié à la périphérie de Paris, on aperçoit une petite bande rose dans le ciel et on est en plein milieu du maximum, on arrive vers le maximum solaire et on a une activité absolument phénoménale.
Et ça vient du plasma aussi.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is.
I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. I love you.
Moody Blues, Nights in White Satin dans Grand Canal sur France Inter. C'est votre choix, Nathalie Cabrol. Je rappelle aux auditeurs que je suis avec vous, astrobiologiste, et vous venez de faire paraître l'énigme cosmique de la vie. Mais avant ça, un petit mot sur ce choix.
Les Moody Blues, c'est les années 60. Je suis née dans les années 60. C'est le temps d'Apollo aussi. Donc c'est toute cette période, c'est un petit peu tout mélangé. Et puis simplement le texte. De la chanson, et pour moi c'était aussi un petit coucou à mon mari.
Cette année, la Nuit des Étoiles s'est hissée au sommet du Pic du Midi pour sa 10e édition. Une nuit consacrée aux exoplanètes, des planètes découvertes à l'extérieur du système solaire. Cette semaine encore, des équipes américaines et suisses ont annoncé 8 nouvelles découvertes.
Tout le monde pensait depuis longtemps que la Terre n'est pas la seule planète dans l'univers. Mais on n'en avait aucune preuve, c'était une opinion. Depuis quelques années, et surtout depuis quelques mois, les découvertes de nouvelles planètes à profusion montrent que cette opinion est tout à fait justifiée et que des planètes comme la nôtre, ou en tout cas des grosses planètes et vraisemblablement des plus petites aussi, existent en très grand nombre dans l'univers. On ne sait pas si c'est par milliers ou par millions ou par milliards, mais déjà les indications vont dans le sens d'un très grand nombre de planètes, et qui sait, peut-être la grande question, peut-être quelques-unes sont-elles habitées.
Il y aurait peut-être de la vie ailleurs.
C'est une possibilité, on n'a pas de preuves encore pour l'instant, il y a cette possibilité que la vie existe en de très grandes quantités et que des émissions comme la Nuit des Étoiles soient un phénomène courant aussi bien dans notre galaxie que dans des galaxies extérieures.
L'astrophysicien Hubert Reeves, disparu en octobre dernier au micro de Patrick Esters en 2000. Nathalie Cabrol, dans votre livre, vous parlez des exoplanètes et vous racontez que pour les détecter, on utilise parfois des lentilles gravitationnelles. Et puis là, vous parlez d'objets massifs comme des trous noirs ou des amas de galaxies. Et plus les objets sont massifs, plus ils courbent le tissu de l'espace-temps. C'est-à-dire
que ce cher Albert, et je parle d'Albert Einstein, nous a dit que l'espace et le temps allaient ensemble dans l'univers, et que quand la lumière se déplace, elle se déplace en ligne droite. Et quand vous avez des objets très très massifs, ils courbent l'espace et le temps. Et ça veut dire que la lumière, d'un seul coup, vous voyez, son cheminement est dévié par ces gros objets massifs. Et sur le bord, ça fait effet de loupe. Et ça nous permet de voir ce que normalement on ne pourrait pas voir, ce qui se trouve derrière d'autres objets. Donc c'est un petit peu la nature qui nous aide ici.
Tout à l'heure, vous parliez justement des télescopes avec lesquels on a pu prendre les plus beaux clichés qui sont dans cet ouvrage. Il y a les télescopes James Webb et Hubble. Les photographies sont hypnotiques. On voit des constellations qui émergent de l'obscurité, des tourbillons de violet rose sur du noir. Alors, bien que vous nous ayez dit que les couleurs étaient de convention, ça fait quand même rêver. Et puis, il y a l'amas stellaire
Trumpler 14, des diamants dans l'espace.
Je
raconte n'importe quoi ?
Non, surtout pas. C'est quelque chose qui est, comme vous disiez, c'est hypnotique. Évidemment, si on était dans cette région du ciel, ce serait déjà beaucoup plus dense, évidemment, que la région dans laquelle nous sommes. Il y a évidemment beaucoup plus de planètes. Mais ce qui est effarant de se dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'espace entre ces étoiles. Mais de se dire que l'univers crée autant d'étoiles et qu'en moyenne, depuis qu'on a commencé à chercher les exoplanètes, on sait qu'en moyenne, il y a au moins une planète autour de chaque étoile. Ça vous donne un petit peu une notion de la quantité de planètes, de systèmes planétaires qu'il peut y avoir dans l'univers. Alors évidemment, ce sont des moyennes. Il y a des systèmes qui en ont 4, 5. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais à chaque fois que vous lèverez les yeux au ciel maintenant et que vous regarderez les étoiles dans le ciel, avant on se disait « Oh, elle est jolie cette étoile, elle brille, elle est bleue, elle est rouge, etc. » Maintenant, vous pouvez penser qu'autour de cette étoile, il y a au moins une planète et des tas de promesses.
Ah oui. Et puis, on apprend aussi que la collision entre deux galaxies donne des milliards d'étoiles, que la Lune aussi vient des débris d'une collision.
Oui, alors les collisions, c'est en ce qui concerne les galaxies, c'est un petit peu étonnant parce qu'on voit ces objets massifs qui font quelquefois des milliers ou des dizaines de milliers d'années-lumière. Ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, il faut 20 000, 30 000 ans pour qu'elles traversent la galaxie. Et on voit tellement d'étoiles dans ces galaxies, on imagine que quand elles vont entrer en collision, il va y avoir beaucoup de destruction. En fait, il y en a très très peu. Il y a tellement d'espace justement entre les étoiles qu'il y a très peu de destruction. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'interactions gravitationnelles. Vous allez avoir des étoiles qui vont être perturbées, vous allez avoir des éruptions, il va y avoir des vents solaires. Et ce que ça va provoquer, la mise en rotation de nuages de poussière, de disques de poussière et de gaz, et vous allez avoir d'autres étoiles qui vont naître et d'autres planètes. Alors ces deux galaxies, elles vont se fondre l'une dans l'autre, elles vont devenir une galaxie beaucoup plus massive, et vous allez avoir à la périphérie de cette nouvelle grosse galaxie des régions où il y a de nombreuses étoiles qui vont naître.
Nathalie Cabrol, c'est votre autre choix musical, c'est la BO de Da Vinci Code composée par Hans Zimmer. Et j'aimerais qu'on fasse un peu rêver les auditeurs sur cet air. Je vais vous citer des choses que j'ai découvertes dans votre livre. Et si vous le voulez bien, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce dont il s'agit. Par exemple, rien que le nom est réjouissant, Circinus. X-1. Circinus, c'est tellement mignon.
Oui, c'est mignon, mais alors, quand on a de la chance, on nomme certains objets. Pour les exoplanètes, en ce moment, c'est un tout petit peu moins poétique parce qu'on en découvre beaucoup, on leur donne des noms de catalogue pour le moment. Il y en a d'autres qu'on nomme comme ça, mais j'espère que dans l'avenir, elles auront des noms. Et puis qu'un jour, peut-être, quelqu'un viendra nous dire comment elle s'appelle véritablement.
Oui, ce serait formidable. Il y a aussi le nuage moléculaire d'Orion et la nébuleuse du crabe.
Oui, alors la région d'Orion est un berceau d'étoiles dans notre galaxie. Il y a des centaines, ce qu'on appelle des proplides, qui sont des systèmes planétaires, comme notre système solaire, qui sont en train de naître. Et il y a des régions entières d'Orion où vous voyez de manière tellement évidente une onde qui est passée probablement d'une explosion d'une étoile, quelque part, qu'on n'aperçoit pas. Mais on voit l'onde parce que dans le nuage de poussière et de gaz, d'un seul coup, vous avez des étoiles qui s'allument sur une ligne droite pratiquement à la frontière de ce nuage. Et là, c'est pareil. Quand on regarde dans l'infrarouge, on voit de la poussière en rotation autour de ces étoiles. L'étoile est toujours en train de se former, elle est toujours en train d'attraper ce matériel pour grandir. Et quand elle aura fini de grandir, ce qui reste, eh bien, ça participera à la formation de nouvelles planètes.
Il y a des choses très spectaculaires, comme par exemple les piliers de la création situés dans la nébuleuse de l'Aigle. On dirait des vagues ou des dragons de fumée.
C'est quelque chose qui, pour moi, symbolise l'émerveillement qu'on peut avoir avec l'observation du ciel. Vous avez les piliers de la création, c'est ces trois piliers des nuages de gaz et de poussière qui sont élancés dans l'espace. Et au bout, de ces trois piliers, vous apercevez des régions rouges qui font environ une demi-année-lumière, une année-lumière. Alors pourquoi c'est rouge ? Tout simplement bien parce que vous avez de toutes jeunes étoiles qui sont en train de naître. Et là aussi c'est pareil. On les aperçoit, Webb les a photographiées maintenant, et ces étoiles, on les voit telles qu'elles étaient quand elles avaient 10 000 ans ou 100 000 ans. On est maintenant à l'observation du tout début de l'histoire d'une étoile.
Écoutez, j'en reste presque muette. Bon, je mets de côté les falaises cosmiques, je laisserai les auditeurs découvrir ce que c'est. On découvre aussi, Nathalie Cabrol, des planètes avec des vents de 9000 km/h et où il fait 1300 degrés, avec des éclats de verre qui volent partout. Et on a d'autres où il pleut du fer et une autre où il pleut des rubis et des saphirs.
Ouais, ouais.
Mais comment est-ce possible ?
Techniquement, à cause de la physique et de la chimie.
Évidemment.
Mais ça, c'est pas tellement poétique. Mais il y a des mondes sur lesquels vous avez des conditions de pression, conditions de température qui sont telles que des choses qui nous paraissent extraordinaires et qui se produisent pour nous sous la surface ou dans des conditions tout à fait spéciales se produisent dans l'atmosphère de certaines planètes. J'aimerais pas tellement qu'il pleuve du fer. Je sais pas quel genre de parapluie il faut dans ces conditions-là. D'abord, les parapluies seraient pas tellement indiqués non plus avec 9000 km/h de vent. On voit les dégâts qu'on a déjà avec 200 km/h. Mais ce sont des mondes où on a des vents hypersoniques, où il y a... C'est aussi la beauté de la découverte des exoplanètes, c'est que ça nous donne une galerie de nouveaux mondes auxquels on peut penser et modéliser et essayer de comprendre quel genre de biochimie, c'est-à-dire quel genre de chimie favorable à la vie pourrait se développer sur des mondes tels que ceux-là.
Lovers vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Of common cause, all of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Taking down the scaffolds very soon. We'll be right back.
Le morceau Barbaric de Blur, mon accent est épouvantable, je vous le concède.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Nous sommes avec l'astrobiologiste Nathalie Cabrol qui vient de publier L'énigme cosmique de la vie et qui est aussi une spécialiste des anciens lacs de la planète Mars. Alors juste d'un petit cliché, mais il est très beau.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is
C'était attendu, mais c'est quand même plaisant. David Bowie, Life on Mars. Pour parler, Nathalie Cabrol, avec vous, de cette planète que vous avez tant étudiée, vous qui avez été membre de la mission Mars Exploration Rover de la NASA. Dans votre livre, on découvre qu'il y a 3,5 milliards d'années, Mars possédait des lacs et des océans et avait le potentiel pour développer la vie en même temps que la Terre. Aujourd'hui, l'environnement est très hostile sur Mars.
Oui, alors il y a 3 milliards et demi d'années, c'était un petit peu la fin de cette époque-là. Mars, en fait, s'est refroidie un petit peu plus vite que la Terre. Elle était donc formée en tant que planète un tout petit peu plus tôt, quelques dizaines de millions d'années avant la Terre. C'est intéressant un petit peu pour l'histoire de la vie, parce que on a des environnements qui sont assez semblables. Au début, c'est pas les mêmes, parce que Mars a toujours été plus loin du Soleil que la Terre, bien évidemment. Mais Mars, quand elle était jeune, était assez semblable à la Terre. Et a probablement formé des océans avant la Terre. Et les conditions qu'on connaît pour l'émergence de la vie sur Terre étaient présentes sur Mars. Et avec la mission des rovers martiens, quels qu'ils soient, on a confirmé que Mars était habitable dans cette période de son histoire. Alors, est-ce qu'habitable, ça veut dire qu'elle était habitée? Ça, on n'en sait rien. Pas habitée par des civilisations avancées, mais par de la vie simple. Alors, là où c'est intéressant, c'est que, comme Mars s'est formé un tout petit peu plus tôt, eh bien, il y a... quand vous avez le système solaire qui se forme, il y a encore beaucoup d'échanges, de collisions avec des astéroïdes qui se promènent. Il y a encore beaucoup, beaucoup de matériaux. Et il y a des collisions avec des comètes gigantesques qui font quelquefois plusieurs centaines de kilomètres. C'est des petites planètes, ou alors des dizaines de kilomètres, des astéroïdes. Et ça envoie des éjectats, des matériaux dans l'espace. Et il y a la mécanique céleste nous dit qu'il y a des routes tout à fait favorables pour emmener des matériaux depuis Mars jusqu'à la Terre. Et on le sait parce qu'on a trouvé des météorites martiennes. On continue d'en trouver sur Terre. Et ça marche aussi de l'autre côté. Ça prend un petit peu plus de temps de l'autre côté, c'est-à-dire que des matériaux de la Terre peuvent être éjectés sur Mars. Alors, il est peut-être possible que... une des théories qu'on essaye d'investiguer, c'est que peut-être la vie aurait démarré sur Mars et qu'elle était importée sur Terre de cette façon, ou en sens inverse. Mais ce n'est pas tellement important. Ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a eu un contact entre les deux planètes. Et donc Mars nous intéresse à cause de ça. Ce serait évidemment plus intéressant scientifiquement s'il y avait deux jeunesses différentes. Ça veut dire qu'on a deux planètes dans le système solaire sur 8. Vous avez 25% de planètes qui sont capables de donner la vie de manière indépendante. Mais s'il y a eu contamination d'une planète à l'autre, eh bien, ça veut quand même dire que la vie a survécu sur deux planètes qui pouvaient être favorables. Mais il y a 3 milliards et demi d'années, ces conditions-là disparaissent de la surface de Mars. Elle a perdu son champ magnétique, elle a perdu une grande partie de son atmosphère. Il y en a toujours une aujourd'hui, il y a un champ résiduel aussi. Mais les conditions en surface ne sont plus favorables à la présence de la vie.
Pour étudier Mars, vous êtes allé dans des milieux terrestres où les conditions environnementales sont similaires à celles rencontrées dans la jeunesse de Mars, notamment dans la cordillère des Andes au Chili, où vous avez plongé dans des lacs de haute altitude comme celui du volcan Licancabur à près de 6000 mètres. Mm-hmm. Déjà j'aimerais vous demander quels souvenirs vous gardez de ce plongeon, et qu'est-ce que les paysages des Andes ont en commun avec Mars ?
Les paysages des Andes, pour commencer avec la deuxième question, c'est pas seulement Mars, c'est aussi la jeunesse de la Terre. Vous avez vraiment un paysage primordial qui est fait de volcans, qui est fait de sources hydrothermales, de lacs, une atmosphère qui est très fine. C'est un analogue environnemental pratiquement parfait de Mars il y a 3 milliards et demi d'années, à l'époque où le climat est en train de changer. Les Andes aussi est un endroit de la Terre, malheureusement, où le changement climatique s'accélère. Donc pour nous, c'est un laboratoire naturel pour voir ce qui se passe au niveau d'une vie toute simple. Il y a des tas de cyanobactéries, des petites algues bleues et vertes.
Et des extrémophiles.
Des extrémophiles, voilà, qui sont capables de s'adapter aux environnements extrêmes. Et donc, la chose qui diffère, c'est la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre par rapport à Mars. Mais pour tout le reste, c'est assez comparable. Et donc, ça nous permet de comprendre quel genre de vie survit à des changements climatiques tels, quelle est la signature de leur habitat. D'un point de vue scientifique, ça veut dire quels sont les minéraux, quelle est la composition, quelle est la morphologie, qu'est-ce qu'ils laissent comme signature dans le paysage. Et puis, pour la technologie et l'instrumentation, savoir quel type d'instrument il faut pour les détecter, quelle résolution, etc. C'est comme ça qu'on prépare la mission.
Et un souvenir ? Qu'est-ce que ça fait de plonger comme ça dans un lac de volcan ?
C'est... Ça reste probablement une des expériences les plus intenses dans le bon sens du terme que j'ai faite. Je l'ai faite pendant 2 ans. Alors les gens me regardent toujours en levant les bras au ciel. Les 2 premières années, en fait, je l'ai fait en apnée parce que je suis une apnéiste et parce que j'aime ça d'abord et puis ensuite parce que j'ai une aversion pour les cylindres pressurisés.
Vous avez une aversion pour les cylindres pressurisés,
oui,
c'est très,
oui,
élégant.
Ça veut dire qu'en fait j'ai une trouille infernale des bouteilles sous pression. Et il a fallu quand même que je la passe parce que l'apnée c'est bien et je suis une bonne apnéiste.
Vous tenez combien de temps, Nathalie Cabrol, en apnée
Au niveau de la mer, jusqu'à 5 minutes. Entre 3 et 5 minutes, ça dépend. Ça dépend si on est plus ou moins stressé. Généralement, quand on fait ça, on est plus stressé. Mais c'est pas quelque chose à faire en altitude. Parce que quand vous ressortez à la surface, quand vous êtes à 6000 mètres, vous avez une atmosphère qui est 48% seulement de celle du niveau de la mer. Et vous voulez pas sortir les poumons vides. Ça m'est arrivé une fois par accident et c'était pas très agréable. Alors donc, j'ai été obligée de me certifier pour la plongée avec des bouteilles, ce qu'on a fait en 2006, on a fait une plongée en bouteille et ça a donné lieu à une des plus belles expériences que j'ai jamais eues. C'est une communion absolument complète, enfin communion ça veut dire c'est complet de toute façon, mais c'était un moment où je me suis complètement fondue à l'environnement, où je pouvais plus sentir s'il y avait une différence entre moi et le volcan et l'eau dans lequel j'étais. Il y avait plus un corps. Il y a simplement la conscience d'être à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui était très méditatif.
Nathalie Cabrol, vous êtes contre le fait de prendre l'exploration spatiale comme une échappatoire. C'est pour vous une opportunité donnée à l'humanité de comprendre quelle est sa place sur cette planète et dans l'univers. Surtout pas un endroit de fuite. J'aimerais savoir tout de même sur quelle étoile ou planète aimeriez-vous vivre si la Terre n'existait plus ?
Ce serait tellement triste.
Oui.
Ce serait tellement triste si la Terre n'existait plus. On a tous les moyens de... D'abord, la Terre, elle continuera d'exister. C'est nous qui allons disparaître si on continue de ne pas comprendre à quel point on est fusionnel avec notre planète. On fait partie d'un système. Et ce système, quand on le dérègle, eh bien, il va essayer de se rééquilibrer d'une autre manière. Ce serait probablement pas Mars. Ce serait probablement pas Mars. Mars est une planète extrêmement hostile et c'est un bon endroit, tout comme la Lune, pour s'entraîner, pour apprendre à devenir des êtres interplanétaires, c'est-à-dire à apprendre à devenir des êtres qui vivent dans l'espace. On n'est pas fait pour vivre dans l'espace. On est né sur cette planète, on est adapté à cette planète. Est-ce que je dis par là que je veux pas explorer ? Non. Considérant ce que je fais, ce serait un petit peu illusoire de dire qu'il ne faut pas explorer. Non, il faut explorer. Mais ça veut dire qu'on explore en ayant compris notre place sur une planète, en ayant appris à respecter un environnement et en ramenant les connaissances et la sagesse que l'on a acquises pour nous aider à vivre mieux sur notre planète. Maintenant, pour répondre à votre question, s'il y avait une planète dans le système solaire, non, il n'y en a pas. Ailleurs, je ne sais pas, je ne les connais pas. Peut-être là où il pleut des rubis et des saphirs, mais ouais, ça doit devenir...
Mais avec un parapluie en fer.
Bon, restons terriennes pour le moment. Merci beaucoup Nathalie Cabrol.
Je vous remercie.
Je rappelle que l'énigme cosmique de la vie vient de paraître aux éditions du Seuil et vous serez à une rencontre ce jeudi au MK2 Bibliothèque à Paris à 20h. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Laurie Negreverne et Ilinka Negulesco, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Lison Berger.